Bienvenue à Sur la ligne, cette émission tout tennis. Cette semaine, on revient sur les résultats de la semaine dernière. Andy Murray continue de nous en mettre plein la vue. On parle aussi des nouveaux commanditaires de Emma Raducanu. Est-ce trop tôt? Et Sylvain Bruno vient nous parler en prévision de la Coupe Billie Jean King. Nicolas Richard, bonjour. Hugues Léger, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
Ok, oui.
C'est parti!
Salut, salut les gars, très content de vous retrouver. Et messieurs, qu'on devrait enregistrer nos conversations avant de rentrer en onde, là. Ça ferait peut-être du bon contenu, je ne sais pas si...
Ou pas.
Si, ouais, c'est ça. Ou pas, mais ce serait, en tout cas, à tout le moins, assurément divertissant. Ben, pour les gens qui se posent la question, pour l'essentiel, on bâche Nicolas Richard.
C'est à peu près cela.
on le fait aussi en onde, mais juste un petit peu moins.
Exact. Juste pour pas m'affecter trop, mais je reste avec vous. 37 épisodes plus tard, je suis encore là.
Hugues, tu es dans le confort de l'hôtel Montville, beaucoup plus confortable que Nicolas Richard qui est avec sa tuque et son manteau à l'extérieur. Comment ça se passe à l'hôtel Montville, mon Hugues?
Super, et derrière moi, je regarde le premier tour de Vienne, ATP 500. Avec notre ami Andy Murray qui joue son match de premier tour contre Urquhart en ce moment. Andy Murray qui a connu encore une semaine étonnante la semaine passée. Je vais l'appeler l'homme de fer. Il y a eu la dame de fer en Angleterre, hein, la fameuse Margaret Thatcher. Je pense que Andy Murray, Sir Andy, c'est l'homme de fer maintenant au tennis avec sa victoire en 3-7 contre Francis Tiafoe. On va en parler un peu plus tard, mais voilà, je suis très bien installé au chaud dans un des plus beaux hôtels de Montréal.
Ah, ça, il faut le souligner. J'invite les gens à aller visiter l'hôtel, ça c'est certain. Nicolas Richard, tuque et manteau.
Ok, oui.
Je repose la question. Est-ce le dernier épisode à l'extérieur? Tu m'as dit que tu te rendrais à l'Halloween, t'es pas loin.
J'avais dit que je me rendrais à l'Halloween, je suis un gars de parole, mais présentement à Saint-Jérôme, il fait à peu près 6 degrés Celsius, ressenti moins 16, taux d'humidité moins 40. Alors, ça se peut que mon ordi fige au milieu du podcast, mais non, on s'en tire bien. Un peu de pluie. Honnêtement, c'est ce que je dis à Alex avant d'entrer en onde. Je suis supposé faire ça à l'intérieur pour une rare fois parce qu'il fait froid. Mais étant donné nos publications Facebook, on m'a trollé encore une fois cette semaine sur nos différents comptes des réseaux sociaux. Alors, je me suis dit, il faut que je sois dehors. C'est ma marque de commerce. Alors, j'y suis encore.
Honnêtement, là, un épisode moyen qu'on te rendra hommage et on le fera
avec Nadège, peut-être comme invité spécial.
Ah ben, on a le contact pour entrer en contact avec elle. Qui sait si c'est peut-être une fan de tennis. Je sais qu'elle a déjà fait pendant l'Omnium Banque Nationale / Coupe Rogers de TVA, envoyait toujours les gens de la météo faire la météo à la Coupe Rogers. Alors, qui sait, peut-être qu'elle pourrait venir nous parler de son expérience météo à l'Omnium Banque Nationale. Mais ce sera pour un autre dossier, messieurs. Et comme je dis, rentrons dans le vif du sujet parce qu'il y a eu du tennis cette semaine. Et vous savez quoi, messieurs? On est un podcast de tennis et on est aussi un podcast d'actualité. Alors, revenons avec la dernière semaine d'actualité. Qu'est-ce qui t'a marqué, Hugues, la semaine dernière? Tu parlais d'Andy Murray. C'est certainement une des choses qui t'a allumé dans la dernière semaine.
Avant de parler du tournoi de Antwerp, Anvers en Belgique, je vais parler de la Kremlin Cup avec un de nos chouchous de cette année, Aslan Karatsev, King Aslan, qui remporte le titre. Quelle année de rêve qui se poursuit. Il est déjà rendu, ça sera la plus grosse progression de l'année, là, c'est garanti. Il est en ce moment à la race à la 13e position. Et au niveau du classement global en ce moment, je vous le dis tout de suite, il a bien monté. Il est rendu 19, donc il a brisé le top 20 déjà. Donc quel beau tournoi. Il bat Marin Cilic en finale, Achanov en demi-finale. Achanov est un des bons jeunes russes, il faut pas oublier, et Karatsev a eu le dessus, donc Karatsev, très très belle semaine, on est très content de le voir progresser comme ça. Moi, c'est un de mes joueurs préférés du circuit en ce moment. Et évidemment, il y a eu Anvers avec une belle victoire de Yannick Sinner contre Diego Schwartzman, une autre belle semaine de tennis intérieur la semaine passée.
Aslan Karatsev, il va être assurément la révélation de l'année sur le circuit. Il n'y a pas de doute. Je veux dire, avant l'Australian Open, on en parlait pas plus tard que la semaine passée. Personne vraiment savait c'était qui, là, à part Nicolas Richard qui le prenait dans ses poules à l'aveuglette. Mais waouh, quelle année il a reconnu. Et c'est une histoire assez spectaculaire parce que c'est pas comme un jeune autant que ça, là, Aslan Karatsev. Il a 28 ans. Alors, c'est une histoire sur le tard et je la trouve intéressante parce que on parle beaucoup de la next gen, on parle de la génération qui va prendre la relève, tous des jeunes, des Félix. Ils sont tous dans la jeune vingtaine. Peut-être il y en a même certains qui n'ont pas 20 ans encore. Alors, c'est intéressant de voir cette histoire-là qui est complètement à contre-courant. Et Nico, je sais que tu es un fan de sport, que tu es un fan des histoires de sport. Et ça doit être une histoire qui te touche assurément parce que c'est hallucinant quand même de percer à 28 ans, là.
Ouais, et puis au-delà de se démarquer dans la next gen, il se démarque aussi dans son propre pays parce qu'on parle beaucoup du Canada comme étant un pays de jeunes joueurs avec les Denis, Félix. La Russie aussi, on en parle souvent, les Medvedev, Rublev, Achanov. Et là, voilà que cette année, un autre Russe s'invite à la fête. Je ne sais pas ce qui se passe dans le développement russe là, au tennis, mais ça fonctionne. Et Karatsev, peut-être qu'il est arrivé sur le tard. Oui, en fait, on sait peut-être pourquoi ça fonctionne, Alex. J'imagine que c'est pour ça que tu riais. Là. Mais...
Non, mais... pas nécessaire. Oui, mais je l'implicite pas. Là.
C'est
pas
ça. En tout cas, ça pour dire que Karatsev fait un excellent boulot. Écoutez, les gars, au début de l'année, là, il était 112e mondial. Ouais. Ça, c'est lors du premier classement en janvier. Il est maintenant 19e et va... Je ne sais pas si ça va être suffisant, mais du moins dans la course pour les finales de l'ATP. Et ça, je ne sais même pas si lui aurait parié là-dessus au début de l'année. Alors, c'est dire à quel point il a été phénoménal encore une fois cette semaine. Deuxième titre après celui de Dubaï. Ouais. Il a quand même battu son compatriote Achanov, Cilic, qui n'est jamais un client facile. Gilles Simon, c'est un peu moins ça, quoique cette année, il a quand même eu de belles séquences. Ouais. Karatsev, vraiment, là, il est impressionnant. Puis je pense... Hugues, puis on en reparlera peut-être tantôt avec un sujet qui va s'en venir en termes de marketabilité. Je ne sais pas s'il est encore une vedette au point où les marques se l'arrachent. Je ne pense pas. Je pense pas qu'il a encore commandité. Je pense qu'il joue encore avec des vêtements libres, là, indépendants. Mais clairement, si j'étais un commanditaire, je m'intéresserais au cas Karatsev parce que je n'ai pas l'impression que c'est un feu de paille. Puis c'est ce qu'on doutait au début de l'année. Rappelez-vous, les gars, on se disait, est-ce que c'est juste l'Open d'Australie, puis après ça, on n'entend plus parler de Karatsev. Après ça, au printemps, ça va bien, cet été, ça va bien. Et là, ça va encore bien. Alors, je me dis, il me semble qu'on sait, là, c'est confirmé. Karatsev n'est pas un feu de paille. Je pense qu'il est dans l'élite mondiale pour y rester au moins encore 2-3 ans, dans le top 15 du moins. Hugues, je ne sais pas ce que tu en penses. Là.
Oui, ben effectivement, tu as employé le mot « autre » un peu plus tôt. Souvenez-vous, à quelque part durant le début de l'année, je pense à l'ATP, on parlait de l'autre russe. On pense toujours évidemment à Rublev, Medvedev, Achanov. Et là, c'était l'autre. C'est quoi le nom de ce gars-là qui commence à performer? Et là, on le sait son nom et on va s'en souvenir. Et il y a peut-être eu un des plus beaux matchs de l'année. Souvenez-vous de sa victoire contre Djokovic, au tournoi de Djokovic, chez lui. Un tournoi qui avait gagné, je dirais, au niveau physique, ce qu'on voit très rarement contre Djokovic. C'est lui qui a dominé physiquement contre...
Le tournoi COVID?
Oui, exactement, le fameux. moi, je suis très impressionné par Karatsev. Pour rebondir sur ce que tu disais au niveau des commandites, c'est pas évident à 28 ans. Je dirais que c'est pas un gars qui a une personnalité tranchante, c'est pas un gars qui va être un choix naturel pour une marque du côté ouest, en tout cas du côté américain, Europe de l'Ouest. Il joue toujours effectivement avec des vêtements blancs ou bleus sans logo. Il joue avec des raquettes Head, qui est une raquette maquillée avec le nouveau cosmétique de la ligne Prestige en ce moment. Mais je suis pas certain que c'est une des vraies Prestige actuelles. Je pense que c'est un cosmétique qu'il y a eu sur sa raquette. C'est une vieille Head, en fait, qu'il utilise selon la forme de la raquette. J'ai un petit peu cherché sur le dossier parce que je joue avec Head et je suis très curieux de savoir avec quoi Karatsev joue. Et il joue avec Asics au niveau de ses chaussures. Mais ses vêtements sont pas commandités. Je pense qu'il attend d'avoir une offre, mais c'est pas si évident que ça. Il va falloir qu'il monte dans le top 10, qu'il soit plus régulier, qu'il poursuive ça sur sa lancée pour qu'un commanditaire s'intéresse. Mais je pense pas que ça le préoccupe trop en ce moment parce que ses bourses sont vraiment intéressantes et il est sur une lancée qui surprend beaucoup de monde, mais j'ai beaucoup de plaisir à le voir jouer. Quelle solidité, quelle puissance. Regardez ses mollets au niveau physique. Là, c'est un joueur atypique pour le tennis. Il prend la balle très tôt, il est extrêmement fort, il peut faire tout avec la balle.
Elle a amassé 1,5 million cette année à Aslan Karatsev. Alors, bon, c'est assez pour vivre cette année, j'en suis convaincu. Mais quand même, il est dans le top 20, Hugues. Qu'est-ce que ça prend pour être commandité? Je veux dire, si tu ne commandites pas un gars du top 20, je comprends que ce n'est pas le plus, comment dire, marketable, ce n'est pas le plus flamboyant. Et peut-être que la neutralité, ce n'est peut-être pas la meilleure des choses en marketing. Là, c'est toi l'expert, mais quand même, il est top 20.
On va en parler un peu plus tard avec les commandites que notre ami Emma Raducanu a été chercher. Oui, elle a gagné un grand chelem. Elle est très jeune. Elle est d'une grande beauté. Les premiers commanditaires qui ont gagné à sa porte, Dior et Tiffany, sont des marques lifestyle, mode, fashion et tout ça qui sont plus naturelles. Mais les performances de Karatsev, et qui est beaucoup plus vieux, se compare à Raducanu. Ils sont à peu près au même classement mondial, autour de la 20e position, mais bon, c'est deux histoires complètement différentes, et tout de suite, on voit là qu'un gars comme Karatsev, il va être commandité, il peut avoir des commandites, il n'y a pas de problème, mais plusieurs centaines de milliers, voire millions de dollars, mais il n'y aura pas un gros contrat avec Nike, il n'y aura pas un gros contrat avec Adidas, j'en doute. Maintenant, que ce soit une autre marque qui le prenne en charge, j'ai bien hâte de voir ça va être qui. Je suis convaincu que pour le prochain Grand Chelem, Australian Open en début de saison, il va avoir un commanditaire sur ses vêtements. C'est là que les commanditaires se placent pour un grand chelem. C'est le moment pour faire un lancement d'une nouvelle association. Mais je m'attends à une surprise ou à avoir une marque qui n'est peut-être pas une grande marque très, très connue.
Avec Garrett. Ah oui, hein? Un genre de, peut-être une compagnie de linge russe, peut-être, qui est pas, je veux dire, moi j'en connais même pas, là, peut-être que ça pourrait être une bonne opportunité pour une commandite à faible prix. Bref, ça va être intéressant à suivre. C'est certainement qu'on va en reparler puisqu'on a, on a l'expert pour en parler. Nous, on est chanceux, on a un expert marketing qui suit le tennis comme pas un. Alors, on va certainement en profiter. C'est certainement une des belles histoires, en tout cas, Aslan Karatsev. Et ce que j'aime, ce que je retiens de ton commentaire, Nico, c'est de dire ce n'est pas un feu de paille. C'est la question qu'on s'est posée d'abord et avant tout, c'était est-ce que ça va être un feu de paille, Aslan Karatsev? Et là, après un an de performance comme ça, enfin, souhaitons-lui que ça se continue pour lui, mais force est d'admettre que c'est pas, en tout cas, évidemment, si ça se poursuit sur quelques années, ça sera assurément pas un feu de paille. C'est une année phénoménale pour Aslan Karatsev, là, c'est là où je veux en venir. Et surtout de le faire à 28 ans, quelle histoire. Une autre histoire phénoménale, on en parlait un peu plus tôt, c'est Andy Murray qui continue de nous impressionner. Et toi, je veux dire, à chaque fois qu'il fait un coup de raquette, tu nous écris, Hugues, tu restes totalement impressionné par sa performance.
Moi, je vous l'ai dit, je le redis encore, ce gars-là joue avec une hanche en métal. Ses médecins lui ont dit, si jamais ça lâche, tu ne pourras plus marcher. Et regardez-le aller sur les terrains en ce moment. Et ceux qui n'ont pas vu le documentaire Resurfacing, je vous encourage à vous précipiter sur ce documentaire-là qui relate sa blessure, son opération, sa réhabilitation. C'est vraiment, vraiment fascinant. Et là, on le voit performer au plus haut niveau. Il bat des athlètes comme Francis Tiafoe en 3-7, 3 tie-break. Écoute, respect pour Andy Murray. Là, et j'admire surtout sa volonté de compétitionner, son plaisir de jouer à son âge encore. C'est un bonheur de le voir jouer. Je suis vraiment, vraiment content de voir ce second souffle d'une carrière qui était à toute fin pratique terminée il y a 2 ans. Là. Donc, je suis vraiment, vraiment touché par les performances d'Andy Murray en ce moment.
Il est spectaculaire. Nico, je vais rebondir en te posant une question, puis Hugues, j'aimerais ça que tu répondes aussi. Est-ce qu'on va le revoir remporter un titre sur le circuit de l'ATP? Est-ce qu'on est rendu là à se poser la question?
Pourrait. Certainement, pourrait. Un grand chelem, je sais pas, parce qu'il faut se rappeler que ça dure sur 2 semaines. Fait qu'est-ce qu'il pourrait tenir 2 semaines contre les jeunes? Je penserais pas. Un titre, un 250, pourquoi pas? S'il a un bon 4-5 jours consécutifs avec des adversaires qui peut battre ultimement, ben oui, je pense que oui. Pourquoi pas? Il a gagné des grands chelems. Andy Murray, c'est un champion, c'est un gagnant. Il fait partie des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport-là. Alors pourquoi pas? Comme je dis, sûrement pas un grand chelem, mais pourquoi pas un 250 ou un 500?
Intéressant. Hugues, es-tu dans la même veine?
Écoute, je pense qu'il lui faut, comme on dit souvent, il lui faudrait un tableau favorable. Je pense que ça va être extrêmement difficile parce que quand tu arrives en quart de finale, demi-finale, tu vas tomber même en 250 ou 500, souvent contre un top 10. Et là, ça commence à être vraiment difficile pour lui. moi, j'ai un doute qu'il puisse gagner encore un tournoi. Il est 156e mondial en ce moment. Fait qu'il se tape tous les premiers tours difficiles aussi en ce moment. Donc, ça met d'autant plus de pression sur ses parcours semaine après semaine. Mais ce qui m'impressionne, c'est que son jeu et sa résistance physique est à son plein potentiel. Sauf que le plein potentiel maintenant du top 10, top 20, ça, c'est une grosse commande pour Andy Murray. Je pense qu'il va aller chercher quelques victoires contre des top 10, top 20. Mais de là à gagner un tournoi, il faudrait vraiment un enchaînement exceptionnel. Et je ne miserais pas trop sur une victoire encore. Peut-être en 250 ou en 500, mais ça va être difficile. Mais même s'il n'arrive pas à ça, je pense qu'il est très content de son niveau en ce moment. Il veut compétitionner Murray et il compétitionne. Je ne pense pas qu'il recherche des trophées en ce moment. Mais là, il prouve qu'il peut jouer avec les meilleurs encore. Et je pense que ça, c'est un succès pour lui.
Ce qui est intéressant, c'est que... Bon, si on compare à Federer et Nadal, parce que bon, ça a toujours été les comparatifs, c'est sa génération, c'est ses contemporains.
Ouais.
Si on regarde les résultats de Andy Murray, si on parlait de Rafael Nadal et de Federer, on parlerait peut-être de l'année de trop. Mais comme il a une histoire qui est tellement différente, c'est-à-dire qu'il avait pris sa retraite, c'est drôle, on dirait que ça continue à bâtir sa légende, même si les résultats... les résultats en termes de résultats de tournoi sont pas hallucinants, là. Mais c'est ces matchs ici et là où il sort des performances. Tu te dis, ben voyons donc qu'il est encore capable de jouer comme ça. Mais c'est intéressant parce que dans plusieurs cas, on parlerait peut-être d'une année de trop, mais dans son cas, c'est comme ça continuait à bâtir sa légende et il s'inscrit. Et c'était déjà le cas. Et il continue de s'inscrire comme un des plus grands ambassadeurs de ce sport-là de tous les temps, là. Ça, c'est certain.
Mais je pense que l'année de trop, ce serait plus dans le cas de Nadal ou Federer où on se dirait, par exemple, il va aller chercher le record Grand Chelem. Il va aller chercher un dernier titre à Wimbledon. Lorsqu'il a un objectif, je pense qu'on pourrait là parler d'une année de trop. Mais Andy Murray l'a déjà dit, c'est clair, je suis ici parce que j'aime jouer au tennis. Point barre. Alors, comment penser que ça peut être une année de trop si c'est pour le simple fait d'enchaîner des victoires, de jouer au tennis puis de profiter le plus souvent possible de ce sport-là? Donc, c'est pour ça que je pense que l'aspect compétitif d'Andy Murray n'est plus le même. Parce qu'on s'entend que Federer, à son retour, lui, il est là pour gagner. Lorsque Federer reviendra, lorsque Nadal reviendra, c'est pour gagner des grands chelems, gagner des matchs importants. Murray, c'est clair, c'est public, on le sait. C'est pas pour ça qu'il est revenu, du moins pas en majeure partie. Donc, c'est pour ça que je pense que l'année trop ne s'applique pas tant que ça à Andy Murray.
Intéressant. Il est tellement un bon ambassadeur et tellement un bon pont entre les deux générations parce que Andy Murray, c'est tellement un gars ouvert, tellement très près en termes de, comment dire, de mentalité de la nouvelle génération, de la nouvelle façon de faire. Souvenez-vous, il y a quelques années, il avait repris un journaliste parce que, bon, il parlait d'un record, là, je me souviens plus. Le journaliste avait dit, c'est le premier joueur de tous les temps, puis il avait répondu, male de tous les temps, tu sais, comme en voulant dire, il y a des jeunes femmes qui l'ont déjà réussi, oublions un peu. T'sais. Alors, c'est tellement un bel ambassadeur, puis je l'ai déjà dit dans le passé, moi, Andy Murray, je vais le prendre autant de temps qu'il voudrait sur le terrain. Je m'en fous qu'il perde au premier tour pour les 5 prochaines années. Je vais en prendre autant qu'il le voudra, ça c'est certain.
Et les gars, avant qu'on passe à un prochain sujet, au moment où on enregistre donc le podcast en début d'après-midi, ce lundi, il sert pour le premier set contre Urkacz en ce moment. Là, c'est 5-4, 30-0. Urkacz est 10e mondial. Quand je vous dis, là, il peut les chauffer. C'est un premier tour. Imaginez, c'est un premier tour costaud pour Andy Murray. Là. Urkacz est un des favoris du tournoi. Je me demande même s'il n'est pas le premier favori à Vienne. Mais s'il réussit à prendre un set à Urkacz, ça prouve encore ce degré, ce niveau de compétitivité qu'il a encore. C'est vraiment fabuleux.
Tsitsipas, c'est le premier la première tête de série à Vienne, mais tu as raison. Et tu disais tout à l'heure, à cause de son classement, il frappe des premiers tours un peu embêtant. Mais d'après moi, ça peut se lire en envers aussi. La plupart là, qui voient le tableau, ils se disent bon, je vais avoir Andy Murray dans les pattes au premier tour, de la façon dont il joue, ils sont pas plus contents, eux. Là. Hubert Urkacz, il n'est pas content d'avoir Andy Murray au premier tour dans les pattes. Là. Ça, c'est certain. Alors, quelle histoire? On va continuer de la suivre et ce serait vraiment le fun de pouvoir l'avoir au podcast. Là, ce serait un rêve pour nous trois là, de pouvoir jaser avec lui de tennis un peu. Et bon, avant de passer au nouveau classement, etc., parlons de Sinner un peu, Hugues.
Ben, Sinner aussi, bon, vainqueur la semaine dernière à Antwerp, Anvers, en Belgique. C'est un autre qui a une superbe année, là, une année breakthrough, une année où il passe au premier plan. Donc, un ex-gen là, qui passe dans la cour des grands, qui est dans la course pour se qualifier à la race en ce moment. Moi, je suis grand fan de Sinner. On a un autre potentiel top 5, top 3 là, avec ce joueur-là. Très, très jeune, jeu extrêmement complet. Là, en ce moment, vous voyez, il est dixième à la race. Il y a des très bonnes chances de se qualifier pour Turin. Ça va être Urkacz, Sinner, Nuri. Il y a Félix qui a une chance encore. Ça va dépendre beaucoup de cette semaine et de sa performance au Masters de Paris dans une couple de semaines. Mais Sinner, l'école italienne, hein, on en parle, Berrettini, Sinner, c'est vraiment, vraiment intéressant ce qui se passe de ce côté-là. Puis c'est un joueur qui peut surprendre n'importe qui. Il peut battre Djokovic, il peut battre Medvedev. Donc Sinner, c'est un autre champion intéressant la semaine dernière.
Messieurs, je regardais rapidement le tableau. On n'avait pas prévu en parler là, à Vienne, mais il y a quand même beaucoup d'affrontements de premier tour assez hallucinants.
Ah, Tsitsipas, Dimitrov. C'est un gros 500.
Ouais. Ouais. Exact. Tsitsipas Dimitrov au premier tour, Monfils Musetti au premier tour, tu as un Fonini Schwartzmann au premier tour, Casper Ruud, Lloyd Harris au premier tour également, ouais. Yannick Sinner, Ropelka, Andy Murray, Urkacz, on en parlait, Alcaraz, Evans, d'ailleurs, Alcaraz a passé, ce serait possiblement le prochain adversaire d'Andy Murray ou Urkacz, dépendant de qui allait gagner. Popirine, Berrettini, c'est pas piqué des verres, Félix Auger-Aliassime contre Berankis. Cameron Norrie, Fukovic, c'est pas un clash de titans, mais ça, on pourrait avoir un deuxième tour entre Félix et Fukovic possiblement. Dominor, Andersson, puis Krajinovic, Zverev. Alors, il n'y a pas beaucoup de matchs de premier tour qui ne sont pas intéressants. Là. C'est comme tu le disais, c'est un. Je pense qu'on va le classer, c'est un 500, mais appelons-le un 750 parce que le premier tour est difficile à passer, pas à peu près. Là.
Ben, oubliez pas, les gars, que c'est la race. Là. Tout le monde se bat pour les dernières places pour les finales de l'ATP. Donc, un tournoi qui donne 500 points, ça peut faire une différence là, si t'es 11, 12, 10e au classement pour la race. Donc, c'est pour ça que les gros noms sont là.
Messieurs, on va faire une courte pause. Au retour, on va parler des classements de l'ATP et on va parler également de Raducanu, qui a de nouveaux commanditaires. Si les gens se demandent pour la raison pour laquelle on fait des pauses dans la version podcast, bien c'est parce qu'on est également diffusé à la radio au 91.9 Sport tous les lundis. On est en rediffusion le week-end également. Bon, vous pouvez écouter aussi toutes les entrevues et les balados sur toutes les plateformes de balados, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, le site de Tennis Canada, l'Omnium Banque Nationale. Alors voilà, c'est le petit plug et c'est la raison pour laquelle on fait également des allées-pauses. C'est parce qu'on est diffusé à la radio. Nico, tu voulais nous parler des classements et des courses à suivre.
Oui, c'est parce que, tu sais, ben, surtout du côté féminin, parce qu'on parle beaucoup des finales de l'ATP, mais il ne faut pas oublier, les gars, aussi qu'il y a une finale de la WTA cette année qui sera au Mexique. On a appris cette semaine que Ashleigh Barty se retirait pour le restant de la saison, quand même assez majeur lorsque la numéro 1 mondiale, lorsque la meilleure joueuse au monde n'y est pas. Mais là, présentement, si on se fout au classement actuel, les 8 premières joueuses dans le classement sont Sabalenka, Pliskova, Krejcikova, Muguruza, Svitolina, Sakkari, Jabeur, Bencic. Et à la vue de ce classement-là, j'ai très, très, très hâte de voir et d'assister à ce tournoi-là parce que ce sera extrêmement serré, peut-être plus que chez les messieurs. Parce qu'on regarde, le Muguruza, Svitolina, Sakkari, Jabeur, Bencic, qui sont dans le deuxième groupe, peuvent battre aussi n'importe qui, peuvent battre Sabalenka, peuvent battre Pliskova, peuvent battre Krejcikova. Donc oui, j'ai très, très hâte de voir ce tournoi-là, puis il faut en parler davantage.
Ouais, mais en même temps, c'est un peu dommage d'avoir ce tournoi-là sans Osaka, sans la numéro 1 mondiale. Ouais. C'est un peu comme faire des séries éliminatoires sans t'sais, je veux dire, Osaka, elle serait peut-être, si elle avait joué, puis si elle avait eu une saison à la hauteur de sa fin de saison l'année passée, elle serait peut-être deuxième mondiale. Ce serait peut-être difficile d'être première mondiale parce qu'Ashleigh Barty a tellement été dominante. Mais est-ce que... Est-ce que c'est pas un peu dommage de ne pas avoir peut-être les deux meilleurs joueurs au monde présentement, évidemment en considérant que Osaka est encore une des meilleures joueuses au monde?
Ben, c'est pour ça, je suis pas si sûr que ça. En disant ça, je suis pas sûr que le top 2 est absent. C'est plus ça. Je suis pas sûr qu'Osaka fait encore partie du top 2. Parce que si j'avais à gager présentement dans un match entre Sabalenka, Krejcikova, Muguruza contre Osaka, c'est pas Osaka que je prendrais malheureusement. En tout cas, en ce moment, j'enlèverais à son talent et à son potentiel et à ce qu'elle a accompli. Mais présentement, puis de ce qu'on a vu cette année, je pense pas qu'Osaka est dans les 8 meilleurs joueurs au monde.
Intéressant. Autre petit sujet d'actualité, messieurs, avant qu'on passe à la chronique de Hugues. Il y a Novak Djokovic qui a déclaré qu'il n'était pas sûr de pouvoir jouer l'Australian Open cette année s'il fallait être vacciné. Dans un même souffle, là, aujourd'hui, lundi, au moment où on enregistre le podcast, il y a une nouvelle qui est sortie, à savoir que peut-être que le gouvernement va revenir sur sa décision et pouvoir permettre aux gens non vaccinés d'aller jouer le tournoi en échange de faire une quarantaine. Alors ça, peut-être qu'on va être plus flexible. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là. Nico, t'en penses quoi?
Ben, c'est encore le débat des vaccins contre les non-vaccinés. C'est évident que avec ce qui se passe présentement, ça fait 18 mois qu'on est en pandémie, le tournoi d'Australie, l'Omnium d'Australie, qui est le premier majeur quand même, c'est lui qui donne le ton à la saison pour plusieurs, même si c'est pas le cas. C'est le premier tournoi de l'année, tant chez les dames que chez les hommes. Alors, c'est clair qu'il n'y a aucune chance à prendre. Après, on en a parlé souvent, ce sont aux joueurs de se faire vacciner, tout simplement. Pour avoir accès à tous les tournois, il faut être vacciné. La règle, c'est ça, que tu sois Djokovic, Federer, Nadal, Félix ou Sinner, il faut qu'on vacciné pour jouer. Le point, par contre, que Djoko amenait sur la table, puis c'est relativement pertinent dans la mesure où c'est pas tout à fait faux, il disait que peu importe si on est vacciné ou non, s'il y a un passager, par exemple, c'est l'exemple qu'il donnait, dans l'avion qui est positif à la COVID, tout le monde doit faire une quarantaine de 14 jours, que tu sois vacciné ou non. Donc, lui disait, en bout de ligne, ça donne rien d'être vacciné parce que tout le monde subit le même traitement. Après, c'est de l'opinion, là, je vous laisse en juger, mais c'est évident que d'un point de vue purement pandémique, l'organisation du tournoi d'Australie fait très, très bien les choses.
Ouais, en fait, l'Australie avait été beaucoup plus sévère que d'autres d'autres endroits dans le monde et ça semblait tenir la tendance. Moi, j'avoue que j'étais un peu surpris si le gouvernement décide de se retourner de bord, comme on dit. Ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose pour le spectacle non plus, parce qu'on sait que Novak, quand même, ce serait un autre rendez-vous avec l'histoire, possiblement pour pouvoir dépasser Federer et dépasser Nadal. Hugues, tu vois cette situation-là comment?
Écoute, je pense que ils n'ont pas le choix de trouver un compromis. Là. Djokovic est dans une position où chaque grand chelem est potentiellement celui qui va le placer au fameux 21 qu'il fait passer devant Nadal et Federer. Les organisateurs ont besoin de lui. Donc, ils ont besoin de trouver une façon que le protocole puisse être convenable pour tout le monde. C'est mon seul point. Je peux même pas imaginer un Australian Open 2022, on revient dans une certaine normalité au niveau de nos activités partout dans le monde, sans le numéro 1 mondial qui est en position pour devenir le plus grand joueur de tous les temps en nombre de grands chelems.
N'oubliez pas, les gars, aussi, là, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais dans la majorité des ligues sportives, si tu n'es pas vacciné, tu ne joues pas. Dans NBA, c'est ça. Il y a un conflit présentement à Philadelphie. Dans la Ligue nationale, c'est pareil. On a vu Tyler Bertuzzi des Red Wings qui n'a pas voulu se faire vacciner, alors ne fait pas les voyages à l'étranger. Je trouverais ça dommage que pour Djokovic, puis j'ai un immense respect pour Djokovic, mais je ne vois pas pourquoi pour lui, on ferait une exception. Il y a des règles qui sont claires, des règles sanitaires dont tout le monde essaie de se sauver. Puis là, pour un grand chelem, on ferait exception. C'est plus ça que j'ai la misère à comprendre. Du moins, avec moi, je n'étais pas d'accord, tu sais.
Mais n'oubliez pas qu'il y a plusieurs moyens. Là. Il peut faire des tests PCR aussi souvent que les organisateurs voudront bien lui demander. On en a parlé plus tôt cette saison. Les joueurs de l'ATP sont leur propre petite entreprise. Ils ne sont pas assujettis par les propriétaires d'une ligue à être absolument vaccinés. C'est leur choix. Ils vivent avec les conséquences. Et visiblement, les tournois ont été assez accommodants. Au US Open, 50 % des joueurs n'étaient pas vaccinés. Et le tournoi a eu lieu et les joueurs se sont présentés quand même. Donc là, il y a comme une zone grise au niveau du tennis là, qui n'est pas réglée encore, visiblement.
Non, exact. C'est la complexité par rapport aux autres sports, c'est que les joueurs appartiennent pas à l'ATP, c'est pas une voilà. ligue, c'est à tout le moins, à la limite, une fédération qui aide. Ouais. Ouais, une association, ouais, c'est le terme plus exact. Je sais pas jusqu'à quel point c'est vraiment une exception qu'on fait pour Djokovic, je l'ai dit. Là, je pense qu'ils assument qu'il y a peut-être... C'est aux dernières nouvelles, et je sais pas si c'est encore le cas, mais bon, au US Open, on apprenait qu'il y avait à peu près que 50% des joueurs de vaccinés. Est-ce qu'on est encore à peu près à ce niveau-là? Si on refuse le vaccin... puis que tu as 50% des joueurs qui ne sont pas là, tu peux assumer que tu as 50%, mettons, en moyenne, du top 100 qui ne serait pas là, tu n'as pas le même genre de tournoi. Là. Alors, enfin, je ne sais pas. Djokovic, j'imagine, pèse dans la balance. Et par là, Djokovic, je vais revenir sur le classement du côté des hommes, Hugues.
Oui, ben c'est ça. N'oubliez pas que techniquement, on ne reverra plus Djokovic dans les prochaines semaines. Medvedev, avec les 1500 points à la clé des finales de l'ATP, n'oubliez pas que c'est plus que les Masters 1000. Ce n'est pas autant que les Grands Chelems, c'est entre les deux, c'est 1500 points. Medvedev peut encore finir numéro un mondial. Donc ça, c'est un des sujets qui commence à pointer dans l'univers du tennis en ce moment. Donc c'est possible que Djokovic ne finisse pas à la première place cette année. Donc moi, je vais suivre ça de très près. On sait qu'on est fan de Medvedev aussi au podcast. Moi, je vais suivre avec beaucoup d'intérêt les prochaines semaines là, d'ici la fin de la saison.
Ouais, ben ce serait, je veux dire, il a connu une année phénoménale, Medvedev. Là, ce serait quand même... je veux dire, en dehors des grands chelems, mis à part le US Open, là, il a été le meilleur joueur sur la planète là, dans la dernière année. Là.
Surtout sur dur et sur indoor. Il aime les surfaces prévisibles, Medvedev. Il a été moins bon sur terre battue. On sait qu'il y a eu un peu un running gag autour de son aversion pour la terre battue à un moment donné. Et même le gazon, ça semblait compliqué. Mais quand tu arrives sur une surface qui est prévisible, sur du dur, que ce soit à l'extérieur ou en indoor, attention à Medvedev. C'est une surface qui lui convient très bien pour la fin de la saison.
Non, exact. Alors, ce serait... Il y a un argument à faire qu'il est possiblement le meilleur joueur au monde présentement. Là. Tu sais, je veux dire, ouais. il l'a prouvé au US Open. Hugues, Emma Raducanu a fait un gros splash au US Open, justement. Et puis les commanditaires n'ont pas perdu de temps pour s'associer à elle. Et toi, tu as plus d'informations sur ces commanditaires-là.
On n'a pas perdu de temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a 18 ans, très tôt après sa victoire au US Open, Tiffany & Co., donc le grand bijoutier de New York, la marque aux boîtes bleu pâle, a signé Emma Raducanu comme ambassadrice de marque. C'est le premier qui est arrivé, mais là, un gros, gros contrat qui vient de se régler. Je n'ai pas eu les chiffres pour l'entente avec Tiffany & Co. Par contre, son entente avec Dior, qui est annoncée la semaine dernière, 2,75 millions. Elle passe à la banque tout de suite. Un grand chelem. On va voir ce qui va se passer pour la suite. Mais moi, je suis toujours curieux de voir comment les commanditaires réagissent quand un joueur ou joueuse devient hot et qu'est-ce qui va se passer réellement dans les prochains mois. Donc, c'est très rapide pour moi. Oui, elle est jeune, 18 ans. Elle a beaucoup, beaucoup de potentiel de mise en marché pour plein de marques. On l'a vu d'ailleurs avec une robe de la designer Maria Grazia Chiuri, qui est la designer vedette de Dior au lancement du nouveau film de James Bond, No Time to Die. Donc, le 28 septembre dernier, elle avait cette superbe robe et c'était le pré-dévoilement de cette commandite. Donc, elle va être commanditée pour tout ce qui est les soins de la peau, maquillage et pour la marque de vêtements de Maria Grazia Chiuri, qui est la designer vedette de Christian Dior. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est trop tôt encore? On va voir, là, je me dis souvent, est-ce qu'il va avoir un effet... Eugénie Bouchard, je vais le dire, parce qu'après 6 mois, 1 an, tout le monde se précipite et tout d'un coup, les résultats ne sont pas là. Donc, ça devient beaucoup plus compliqué. Je le dis à chaque fois, on se lie aux valeurs d'un ou d'une athlète, aux attributs d'un ou d'une athlète. Il faut que ça soit cohérent avec la marque. Et tout d'un coup, si ça se passe moins bien pour des raisons qui peuvent pas être contrôlées, hein, tu fais ce contrat-là et là, tout d'un coup, il y a des enchaînements de défaites où il y a des problèmes avec son coach qui n'est pas trouvé encore, par exemple. Il peut se passer plein de choses d'ici les prochains mois. Ma question, c'est est-ce que certaines marques n'ont pas été un peu rapides sur la gâchette pour aller avec Raducanu, bien que son potentiel est énorme en ce moment. Donc, 2,75 millions pour cette entente-là. Et je suis certain qu'il va en avoir d'autres. Donc, Emma Raducanu passe à la banque avant même son 19e anniversaire. Je suis content pour elle, mais j'ai hâte de voir dans 6 mois, 1 an, qu'est-ce qu'on va dire sur ses commandites.
Bon, moi, j'ai deux, trois petits trucs à acheter. De un, j'ai vu No Time to Die, je vous le recommande. C'est bon. Si vous êtes un fan de James Bond, ça, c'est un. Deux, Hugues, est-ce que c'est pas l'idée de dire, bon, on va faire un commitment sur une jeune athlète un peu plus tôt que prévu, mais à rabais d'une certaine manière. Et si elle performe, on va avoir quelques années à rabais. Est-ce que c'est pas ça l'idée derrière cette stratégie-là, j'imagine?
Oui, puis c'est une marque, c'est deux marques, en fait, Tiffany & Co. et Dior, 100% lifestyle, qui sont pas des marques positionnées dans le sport à ce point-là. Donc, elle est très jolie, Emma Raducanu, elle est rafraîchissante et tout ça. C'est pas un hasard qu'ils aillent avec quelqu'un comme Raducanu. Donc, cette association-là va aller au-delà de ses résultats sportifs, évidemment. On va parler vraiment de lifestyle. Elle va être sur le circuit. Elle sera peut-être encore l'an prochain 20e, 15e, 32e, mais c'est pas grave. Cette commandite-là n'est pas reliée à son classement ou à une accumulation de victoires, mais à la fraîcheur qu'elle amène sur le circuit et pour ce commanditaire-là. Donc, c'est un fresh name dans le domaine des marques de luxe. Et évidemment, le tennis parle à une clientèle généralement assez en moyen aussi. Donc, je pense que c'est un fit qui fait du sens. Mais encore une fois, oui, il y a peut-être un certain rabais de signer plus vite, mais encore une fois, une entente de 2,75 millions, c'est une entente substantielle. Je ne sais pas pour combien d'années ils ont signé, mais ce n'est pas un si gros deal que ça. Donc, voyons voir. S'ils l'ont verrouillé pour 10 ans, je te dirais oui, c'est un deal, mais je doute que ce soit une entente sur un si long terme que ça.
Nico, si jamais tu cherchais Emma Raducanu pendant le US Open l'année prochaine, elle risque de marcher sur la 5e avenue.
Il y a des bonnes chances.
Probablement.
Il y a des bonnes chances que tu puisses la croiser là. Si tu marches assez longtemps, tu vas pouvoir avoir, pas son autographe, parce que ce ne serait pas très professionnel comme journaliste, mais tu vas pouvoir la saluer du regard.
Assurément.
Tu vas pouvoir la saluer du regard. L'autre question que ça sous-entend, Hugues, et je ne vais pas te mettre sur le spot, tu me diras si c'est le cas, là, mais bon, l'autre finaliste, Léla Annie Fernandez, pourquoi il n'y a pas eu encore une espèce de vague de commanditaires comme il y a eu pour Emma Raducanu?
Elle n'a pas gagné l'US Open. Ça, c'est un élément important. Elle est passée très près, mais je pense qu'elle touche à un autre système de valeur que Emma Raducanu. Je pense que Emma Raducanu, tout de suite, on l'a vu comme une figure jet-set très rapidement. Et je pense pas que Leila amène ces mêmes intérêts-là de la part des commanditaires. Je pense que Leila, ça va être beaucoup sur son éthique de travail, sur sa candeur, sur son intelligence, sur sa résilience, sa persistance. Donc, on parle de valeur, encore une fois. C'est ce genre de marques-là qui vont rechercher ça, qui vont aller voir une Leila Annie Fernandez. Mais je ne m'attends pas à ce que des grandes marques de la mode aillent voir Leila nécessairement. Il y aura d'autres grandes marques. Je vous l'ai dit durant l'US Open, écoute, son intelligence, son sourire, son à-propos, sa candeur, ça au niveau marketing, c'est vraiment intéressant. Mais je pense qu'elle va aller frapper dans une autre talle de marques que Raducanu.
Ben, elle a l'avantage d'avoir des racines espagnoles, d'une certaine manière, Amérique du Sud et tout ça. Il y a beaucoup d'argent peut-être au Mexique ou en Amérique du Sud peut-être à aller chercher dans son cas. Et si je ne me trompe pas, il n'y a pas beaucoup de joueurs/joueuses qui ont joué avec des commanditaires mexicains ou de l'Amérique du Sud, là, à ma connaissance. En tout cas, là, tu le saurais plus que moi, là, mais vite comme ça, là, il y a Claro peut-être, là, justement un des commanditaires
qui est un très gros télécom mexicain. Hein. C'est une grosse marque. Mais donc, effectivement, ça, j'en avais parlé aussi. Le fait qu'elle parle anglais, français, espagnol, elle va toucher toute cette clientèle hispanophone. On voyait durant l'US Open, il y avait toute la communauté qui était derrière elle aussi. Donc, c'est une autre personnalité. C'est d'autres valeurs. C'est un autre style. Leila Annie Fernandez, si on compare à Raducanu, elle va avoir des commanditaires aussi intéressants, je suis convaincu, mais dans une autre talle de commanditaires.
Nico, toi, t'es commandité par qui?
Moi, je suis commandité par Personne!
Ouvert aux propositions. Ouvert aux propositions.
Je te garantis que j'aurais une tuque de plus grande qualité si je te commanditais, moi, Alex. Et sûrement un abri pour faire des podcasts. Oui, vas-y.
Si tu veux venir à mon chalet, j'en ai plein de tucs, Nico. Là, tu pourrais, je vais t'inviter en ski. Je vais te donner 2-3 tucs qui ont du sens. Et puis, tu pourras le voir comme une commandite.
Ben, je vous remercie, M. Réginbald. Je vais y penser. Je vais y penser. J'ai d'autres offres. Je vais vous revenir.
Très intéressant. Ben, merci, Hugues. Une fois de plus, t'as prouvé ta valeur et fait une chronique que moi et Nico, on n'aurait pas pu faire. C'est toujours intéressant parce que c'est tellement une grande partie du sport professionnel, l'argent, les commanditaires. Tu sais, je veux dire, ça fait partie du sport puis c'est essentiel parce que tu le dis souvent, Hugues, ces athlètes-là ont pour l'essentiel, une durée de vie professionnelle très courte. Alors, c'est important pour ces athlètes-là quand même d'aller chercher beaucoup d'argent dans leur prime et au moment où ils peuvent le faire. Là, ça, c'est certain. Messieurs, avant qu'on passe à la pause et au retour de la pause, on va voir Sylvain Bruno, mais avant qu'on passe à la pause, Nico, Coupe Davis.
Oui, Coupe Davis, ça s'en vient à grands pas. On tend à l'oublier parce qu'il y a beaucoup d'actions, mais la Coupe Davis, c'est quand même un format qui a réussi, je trouve, à se renouveler au cours des dernières années, même si je ne suis pas sûr qu'il a l'attention qu'il mérite, là, ce tournoi-là. Chacun a son idée là-dessus. Tout ça pour dire que le Canada sera quand même assez bien représenté, ce qui n'est pas le cas à la Billie Jean King Cup. Donc, le Canada qui va avoir dans ses rangs Félix, Denis, Vachek, Braden Schnur et Polanski aussi qui sera là. On a vraiment le droit à la crème de la crème. Il manque peut-être juste Miloš. Et c'est tout. Là, en termes de qualité de joueurs au Canada, les meilleurs s'y retrouvent. C'est encourageant, d'autant plus qu'on va jouer contre deux adversaires prenables, soit la Suède et le Kazakhstan. Honnêtement, les gars, c'est rare. Là, c'est un tournoi qui est intéressant, mais ce n'est pas mon préféré. Là, mais là, avec la qualité des joueurs qu'on a là, je suis vraiment, vraiment curieux de voir ce que ça va donner.
Ouais, on a exactement la bonne profondeur pour pouvoir performer année après année en ATP Cup et en Coupe Davis. C'est-à-dire qu'on a des bons joueurs de double, on a des bons joueurs de simple également. Je suis d'accord avec toi, c'est une coupe qui s'est très bien renouvelée malgré la vague que ça a fait au départ. Là. C'est-à-dire que le monde, la Coupe Davis était attachée au format principal qui était avant. Mais moi, j'aime bien le nouveau format, format Coupe du Monde, finalement. Là, c'est un peu ça. Et c'est un tournoi qui, en Amérique du Nord, les deux compétitions, le Billie Jean King Cup et Coupe Davis, ont plus de difficultés à attirer de l'attention en Amérique du Nord comparé en Europe. À moins que je me trompe, Hugues, tu es un spécialiste un peu plus du vieux continent. Toi, c'est-tu une compétition qui t'allume, la Coupe Davis?
Oui, parce que je suis un fan de tennis depuis longtemps. C'est un tournoi majeur depuis plus de 100 ans. Mon terrain préféré, j'ai été expatrié pendant quelques années en France. J'ai joué au club qui s'appelle le Stade Français et c'était le lieu des fameuses Coupes Davis États-Unis-France dans le temps des mousquetaires, hein, Lacoste, Cochet, Borotra et autres. Donc, j'ai beaucoup d'attachement à ce tournoi-là d'un point de vue historique, mais je pense que depuis quelques années, le tournoi cherchait un peu sa formule. C'était difficile qu'il y ait 4 rondes échelonnées durant l'année. Les joueurs, encore une fois, on le sait, le calendrier de tennis est très chargé durant l'année. Fait que souvent, les meilleurs joueurs dosaient leur participation ou évitaient complètement de jouer à la Coupe Davis. Fait qu'ils ont dû revoir un peu la formule. L'ATP Cup, en début d'année, avant l'Australian, fonctionne très bien, qui est une coupe par pays aussi, n'oubliez pas. Donc, ils sont un petit peu challengés. Puis ça, sans compter la Lever Cup, qui est une autre formule, continent, pays. Donc, je pense qu'ils sont un peu bousculés. Ils ont un peu revu leur formule depuis 2 ans. Et je pense que ça amène de l'intérêt. Mais je pense que ça sert le Canada en ce moment. Moi, je suis content parce que, on se retrouve dans les finales cette année. Puis effectivement, vous l'avez dit, on a un groupe tout à fait prenable. De l'autre côté, il y a l'Espagne, la Russie et l'Équateur. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait peut-être une finale potentielle entre les deux pays, je dirais, les plus hot en ce moment, c'est-à-dire le Canada et la Russie, si on exclut l'Italie qui n'est pas partie du groupe final. Donc, c'est une formule qui, je crois, se cherche encore. Et c'est les gens qui ont un intérêt historique qui vont le regarder. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils vont aller chercher des cotes d'écoute faramineuses cette année au niveau de la Coupe Davis.
C'est une compétition quand même assez prestigieuse. Je pense que si tu parles aux joueurs, ils vont te parler des grands chelems, puis tout de suite après, pour la plupart, ils vont te parler de la Coupe Davis, parce que dans tous les bios de grands joueurs que tu vois, T'sais, ils mentionnent la Coupe Davis comme étant un titre prestigieux qu'ils ont remporté. Oui. Et dans cette génération-là, ben, les Novak, les Rafael Nadal et Federer l'auront tous remporté. Ça va être intéressant à suivre. Et là, le Canada, comme tu dis, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'on va la suivre de près, oui, cette compétition-là. On est même en démarche pour se faire accréditer également pour cette compétition-là. Alors, on va la suivre de près. On va y revenir parce qu'elle est un peu plus tard. La compétition, messieurs, qui est un peu plus proche, c'est la Billie Jean King Cup. Et j'ai fait une entrée en matière avec Sylvain Bruno un peu plus tôt cette semaine, une entrevue que je vous présente après la pause. Alors, on est en compagnie de Sylvain Bruno en prévision de la Coupe Billie Jean King Cup. Sylvain, avant qu'on parle de cette compétition-là, donne-nous un peu de tes nouvelles. Comment vas-tu? Comment te portes-tu? As-tu pu prendre un peu de pause après l'Omnium Banque Nationale ou est-ce que c'est toujours dans le tapis?
Non, c'était quand même assez occupé parce que après Leila l'a bien joué à New York, donc ça nous a tenu tout le monde occupé un peu de loin. Et puis, il y a les joueuses qui sont au Centre national qu'il faut aussi préparer. Mais je pense qu'après la Coupe Billie Jean King, là, à la fin novembre, début décembre, ça devrait être un moment un petit peu plus tranquille.
Et de façon générale, c'est Heidi El-Tabak qui était la capitaine de cette compétition-là. Ça fait quoi de remplacer Heidi à pied levé comme ça, là, d'une certaine manière?
Oui, ben c'est un retour aux sources, hein, parce que quand même, de 2004 à 2010, j'étais entraîneur de cette équipe-là. Et de 2010 jusqu'à 2018, j'étais capitaine. Donc, petite pause de 3 ans, je travaillais avec Bianca Andreescu. On avait pris cette décision-là à Tennis Canada. Mais j'adore cette compétition par équipe. J'adore les compétitions par équipe, représenter son pays. Ben, je pense que c'est le plus grand privilège, le plus grand honneur. Donc, et Prague est une très belle ville. C'est une équipe avec laquelle je m'entends super bien. Donc, je suis bien content de retrouver l'équipe pour l'espace d'une rencontre.
Et est-ce que ce sera, si je ne me trompe pas, ça va être la première fois que tu vas être l'entraîneur dans ce nouveau format-là? Est-ce que tu l'aimes bien, ce nouveau format-là de la Coupe Billie Jean King?
De loin, oui. Je pense que c'est un bon travail qui a été fait d'essayer de faire un showcase en fin d'année avec tous les meilleurs pays sur la même aréna, au même endroit. Un peu comme font la Coupe Davis, je pense que c'est un grand succès. Donc, je n'ai jamais expérimenté. On a fait le groupe mondial en 2014-2015, donc top 8. Mais c'était encore dans la formule, tu reçois un pays, tu visites un pays. Mais maintenant, dans cette formule-là, moi je suis vraiment content d'aller expérimenter ça.
Et là, parlons-en de la compétition. Le Canada se retrouve dans une phase de groupe avec la Fédération française de tennis et la Fédération russe de tennis. Parle-nous un peu de ces adversaires-là. À quoi tu t'attends de ces deux pays-là qui sont quand même deux bons pays là, dans le monde au tennis?
Ben, c'est sûr. Quand tu arrives dans cette... on a eu une invitation de dernière minute, le Canada, la Hongrie qui devait avoir le tournoi s'est retirée. Et puis, on a eu la place de la Hongrie qui avait un laissé-passer. Donc, c'est sûr que la France, la Russie, ben, c'est des puissances au niveau du tennis. Et donc, peu importe, honnêtement, quel pays t'affrontes quand tu es dans cette compétition-là, tu sais que tu vas avoir quand même une bonne compétition vive de tes adversaires. Et dans notre cas, bien, c'est sûr qu'on arrive privé quand même de 3 joueuses. On a Bianca qui n'est pas présente, Leila et Eugénie Bouchard. Néanmoins, on a une bonne équipe avec des filles qui jouent très bien à l'intérieur. Donc, j'espère là, qu'on va être capable de tirer notre épingle du jeu malgré tout.
La France est la mieux classée dans le ranking de la Billie Jean King Cup. Mais jusqu'à quel point les classements, ça veut dire quelque chose et pas dire grand-chose en même temps dans ce genre de compétition-là?
Ben, c'est ça, le classement, c'est parce que tu ne sais jamais quelle formation qui va se présenter. C'est-à-dire que tu as un pays en un classement, mais est-ce qu'il va arriver avec toutes ses meilleures joueuses ou il va arriver privé de 2 ou 3 joueuses? Donc, le classement, en fait, je ne m'en fais pas trop avec ça. Mais je sais quand même, j'ai regardé la formation, la Fédération française puis la Fédération russe, puis c'est clair qu'on va avoir des très, très bons matchs puis il va falloir très bien jouer.
Quels vont être les joueurs à surveiller du côté des adversaires russes et françaises?
Ben, c'est sûr que tu penses quand même aux filles comme Cornet, Ferro, Garcia, qui ont beaucoup d'expérience, Pavlyuchenkova, puis tout ça. On va voir s'ils vont être présentes, mais c'est toutes des filles qui ont bien joué, qui ont l'habitude d'être dans les grands tournois sur les grands matchs. Et puis, mais on ne sait jamais. Hein. Quand tu joues dans une compétition par équipe, puis tu représentes ton pays, moi, je trouve toujours que c'est une dynamique bien différente. Mais je pense tout le temps que les classements, on peut les mettre un peu de côté. Donc, on va essayer de prouver ça.
Et le Canada sera mené, entre autres, par Rebecca Marino et Françoise Abanda, si je ne me trompe pas, et Gabriela Dabrowski du côté du double. Comment vont ces joueuses-là? Est-ce qu'elles sont en forme? Donne-nous des nouvelles de ton équipe.
Oui, alors effectivement, Rebecca Marino, Françoise Abanda, Carole Zhao et Gabriela Dabrowski, tout le monde est super excité, tout le monde est super content d'aller jouer cette compétition-là. Pour eux autres aussi, c'est une première. Et c'est des filles pour qui Carole elle a joué beaucoup de compétitions d'équipe. Elle était à l'Université américaine. Rebecca, les Olympiques, c'est représenter le pays aussi, c'est top sur sa liste. Donc, c'est des filles qui aiment beaucoup représenter le pays. Je pense à Gabriela, je pense qu'elle a manqué une rencontre par équipe en 10 ans, là, quelque chose comme ça. Et Françoise, elle joue très bien à l'intérieur. Puis par le passé, elle a eu un très, très bon match quand elle représentait le pays. C'était un moment qu'elle a réussi à hausser son niveau de jeu, puis à se présenter, puis à jouer du tennis exceptionnel. Donc, c'est sûr que sur papier, on est négligé, c'est clair, qu'on n'a pas le même classement que certaines autres joueuses. Mais comme je mentionnais, on va mettre le classement de côté. Je pense que les filles jouent très bien à l'intérieur, vont être super motivées de représenter leur pays, puis que on peut faire des surprises.
En même temps, tu as dans tes cartes une des meilleures joueuses de double au monde en Gabriela Dabrowski. Et le double revêt quand même une importance assez grande dans ce genre de compétition-là. Est-ce que tu as déjà une idée avec qui tu vas faire jouer Gabriela sans que tu nous révèles toutes tes cartes?
Faut voir, par exemple, parce que si Rebecca a joué un match très, très long puis elle est fatiguée ou quoi que ce soit, je pense que Rebecca peut très bien jouer en double parce qu'elle a un grand service et puis elle est difficile à briser. Carole Zhao joue très bien aussi en double. Mais honnêtement, c'est sûr que le pilier de l'équipe, c'est Gabriela, mais à savoir exactement quelle formation qui va être mise dans la mêlée, je regarde comment les cinq vont se passer en premier. On va préparer différentes combinaisons, ça c'est certain.
Et je suis convaincu que Gabriela va être en mesure de s'adapter à peu importe la partenaire avec qui elle pourra jouer. Rebecca, elle a eu quand même dans les circonstances une bonne saison. Carole Zhao, elle a bien fait quand même dans des tournois de niveau inférieur. Françoise, on ne l'a pas vue beaucoup, elle, depuis quelques années même, je dirais. Là, comment elle va et est-ce que son niveau de jeu est à un niveau qui va lui permettre de pouvoir rivaliser avec les meilleurs au monde?
Bon, Françoise, elle n'a pas assez compétitionné avec la situation de la pandémie, du COVID, et puis d'être canadienne, le retour à la maison qui n'était pas facile avec les quarantaines. Elle a fait un choix de moins compétitionner. Et là, je pense qu'elle s'y remet. Elle est allée jouer quelques tournois là, récemment. Mais on a vu à Montréal, lorsqu'elle a joué Garcia, un match très compétitif. Deux semaines après, on lui a donné un laissez-passer à Chicago. Elle a battu une joueuse 60e mondiale. Donc, c'est une fille qui est capable de faire vraiment des surprises. Puis quand elle est appelée dans un grand rendez-vous, normalement, elle se présente. Okay? C'est un peu son historique. Donc, c'est sûr que son classement a glissé. Elle a moins compétitionné, moins de résultats. Mais j'ai quand même confiance en elle dans la nature de cette compétition-là. Mais ceci dit, c'est sûr qu'après, elle va devoir se mettre à faire des tournois, c'est certain.
Je me souviens de l'année où c'est l'année où on avait inauguré le stade IGA en Fed Cup à l'époque. Là, elle avait pris quasiment l'équipe sur son dos là aussi, là, avec Eugénie qui avait eu une bonne performance. Alors, tu fais bien de le mentionner que Françoise, c'est le genre de compétition où elle peut être une adversaire très dangereuse. Sylvain, on te souhaite la meilleure des chances à Prague. Merci de remplacer Heidi El Tabak à pied levé comme ça. Et puis, au plaisir et bonne chance à toute l'équipe canadienne.
Ah, t'es super gentil. Merci beaucoup. Merci.
Bye-bye.
Ciao.
Merci une fois de plus à Sylvain Bruno. Il a été excellent, comme d'habitude. Merci à vous. Vous aussi, messieurs, vous avez été excellents. Hugues, avant qu'on se laisse aller, qu'est-ce qu'on surveille la semaine prochaine? Évidemment, la Billie Jean King Cup.
Oui, exactement. Et encore une fois, un cadeau de voir Rebecca Marino avec cette responsabilité-là qui marque la fin d'une superbe saison de retour pour elle. Donc, dans le contexte où Leila et Bianca ne seront pas dans l'équipe, je suis très content de l'avoir comme capitaine de l'équipe pour cette Billie Jean King Cup. Et évidemment, on suit Vienne avec ce très beau tableau qui ressemble à plus qu'un ATP 500. Donc, Stefano Tsitsipas, numéro 1. Félix est présent. Et du côté de Saint-Pétersbourg, on aura aussi Chapovalov qui sera en action. Donc, de belles semaines de tennis encore dans cette saison indoors.
Et juste pour être clair, là, la Billie Jean King commence pas la semaine qui s'en vient, là, si vous écoutez le podcast lundi, mais il va y avoir tous les préparatifs, les matchs à suivre, etc. Là, et nous, on va faire une émission spéciale possiblement oui. Dimanche. Et on va faire l'émission régulière lundi, mais lundi prochain, les matchs vont déjà être commencés. On devrait avoir des échos des échos de vestiaire, mais des clips d'après-match pour vous dans ces podcasts-là. Nico, mot de la fin.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.